Bonjour à tous.
Jésus a donné aux chrétiens la mission d'aller porter son message en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors voyons, la Judée, check. Les apôtres s'en sont chargés. La Samarie, check. Pierre a été leur parler. Jusqu'au bout du monde, check ou quasi check. Depuis l'ère coloniale, la parole de Dieu a été portée presque partout. Et on fait quoi maintenant? Dernièrement, un missionnaire américain s'est risqué à aller sur North Sentinel, une île qui vit en autarcie depuis des millénaires. Il n'en reviendra pas. Les habitants ont violemment désapprouvé son débarquement sur l'île. Du coup, comment peut-on répondre à l'appel de Christ? Ne pouvons-nous pas être missionnaires ici et maintenant? Ne pouvons-nous pas être en mission en Auvergne dès à présent? Philippe, ici même, il y a 2 semaines, nous parlait de la vocation d'être témoin de l'Évangile. À mon tour, j'affirme que véritablement nous pouvons témoigner à tous, sans crainte, et là où nous sommes. Et pour étayer cette affirmation, nous allons regarder un événement que Paul a vécu à Corinthe et qui est raconté par l'évangéliste Luc dans le livre des Actes. Paul, l'apôtre Paul, est un juif, un ancien fervent défenseur de la loi juive. Il a combattu l'Église chrétienne au tout début, puis il s'est converti à la foi qu'il combattait. Finalement, il a entrepris une série de 3 longs périples dans le bassin méditerranéen que l'on appelle aujourd'hui « Voyage missionnaire de Paul ». Son objectif est clair, annoncer la parole de Jésus-Christ jusqu'à Rome. Le texte que nous allons lire est le chapitre 18 du livre des Actes. Et lors de mon précédent message derrière ce pupitre, nous étions au chapitre 17 à Athènes. Paul, chapitre 18, vient d'arriver à Corinthe. Nous lisons les 11 premiers versets du chapitre 18. Ils ne seront pas projetés si vous avez une Bible. Suivez avec moi, sinon écoutez. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie, avec sa femme Priscille. Car tous les juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux, et comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient aussi. Il secoua contre la poussière de ses vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus, un païen converti au judaïsme, et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole. Trois idées ressortent du texte et je vous propose de les étudier une par une. Nous verrons dans une première partie qu'il est possible de témoigner là où nous sommes. Dans une seconde partie, nous verrons que nous sommes appelés à témoigner sans distinction. Dans une troisième et dernière partie, nous serons encouragés à témoigner sans crainte, car Dieu est à la manœuvre. Saviez-vous que l'apôtre Paul était fabricant de tentes, de profession. Personnellement, je l'ai découvert en me penchant en détail sur ce texte. Il y a une chose qui me surprend régulièrement dans la Bible, c'est que rien n'est écrit sans raison, pour le simple plaisir de l'auteur. Pourquoi Luc, en écrivant le livre des Actes, a eu l'inspiration de nous préciser que Paul était fabricant de tentes? D'une part, je crois que cela nous aide, nous lecteurs, à voir qu'après tout, le super missionnaire que nous voyons en Paul, c'est aussi un homme normal. D'autre part, avec cette précision, nous apprenons que Paul, au début de son arrivée à Corinthe, annonçait Christ seulement à temps partiel, pendant son temps libre. Alors prenons un peu de recul. Depuis sa conversion, Paul est en mission. Il est en plein milieu de son second voyage missionnaire. Corinthe, c'est la fin de ce voyage. Vous voyez le trait vert, essayez de ne pas de lire, c'est... Sur la carte, vous voyez le départ de Judée, en bas. Il remonte, il traverse la Turquie actuelle. Il arrive en Grèce, en Macédoine. Par le nord, pour redescendre au sud, en Achaïe, avec deux points de chute qui sont Athènes, chapitre 17, et Corinthe, au chapitre 18. Après Corinthe, retour en Judée en faisant une escale par Éphèse. Ce voyage, c'est 5600 km en 3 ans. On apprend à la fin du texte qu'il restera 1 an et demi. Sur un voyage de 3 ans, à Corinthe, il a passé clairement le plus de temps. Le problème de Paul, son problème, c'est qu'il n'avait pas de méga church américaine pour le soutenir pendant tout ce voyage. Du coup, le missionnaire, il improvise. Il travaille la semaine pour avoir de quoi vivre. Quand il ne travaillait pas, c'est-à-dire le jour du sabbat, il allait, non sans difficulté, annoncer Christ à la synagogue locale. Il est évident que Paul est en mission à Corinthe, et c'est là l'essence même de son voyage jusqu'ici. Il n'est pas venu pour fabriquer des tentes. Il aurait pu tout autant rester à Jérusalem ou à Antioche pour fabriquer des tentes. Il redeviendra enseignant à temps complet après l'arrivée du don des Philippiens, c'est-à-dire quand les deux personnes de notre texte arrivent pour lui apporter de l'argent. On voit ça aussi dans le livre des Philippiens. Dans son voyage de ville en ville, Paul est poussé par l'Esprit Saint pour aller annoncer l'Évangile, pour aller annoncer Jésus-Christ. Dieu est avec lui. Cette mission, c'est avant tout celle du Seigneur. En introduction, je citais cette demande de Jésus-Christ à ses disciples. Si Paul, arrivé à Corinthe, n'a pas les moyens de se consacrer pleinement à la mission, est-ce réellement la volonté de Dieu qu'il soit à Corinthe? La fin de notre texte balaye cette idée. Dieu dit à Paul de persévérer, car un peuple nombreux lui appartient à Corinthe. Pour la mission que Dieu donne à Paul, Dieu n'a pas une obligation de moyens. Paul, et par extension tous ceux qui se reconnaissent comme disciples de Jésus, ne sont pas dédouanés de réaliser la mission que Dieu donne à cause d'un manque de moyens pour la mener à temps. Paul n'a pas attendu les bonnes conditions pour se lancer dans l'aventure. Quand la grâce de Dieu ne suffit pas à pourvoir à ses besoins, il improvise pour allier mission et vie quotidienne. Dans les manifestations de salariés, j'entends deux grandes revendications. D'un côté, les salariés veulent avoir une meilleure rétribution de leur travail. demandent un meilleur salaire, de meilleures conditions de départ à la retraite, plus de temps libre, etc. D'un autre côté, les salariés veulent plus de moyens pour faire leur travail. Ce sont des moyens financiers, humains, matériels. Dernièrement, j'entendais la grogne dans les EHPAD. Il y a trop de pensionnaires à s'occuper et pas assez de moyens pour le faire. De même dans l'éducation nationale. Il y a trop d'élèves par classe. La difficulté d'accompagner ceux qui ont le plus de mal. Dans ces deux exemples, il n'y a pas assez de moyens pour le faire. Mais le service est réalisé quand même. Notre engagement dans notre foyer, dans notre travail, dans l'église n'est pas toujours idéal. Il y a beaucoup de contraintes, à commencer par celle du temps disponible. Dans la mission pour le Seigneur, cette mission de témoigner de Jésus-Christ, n'avons-nous jamais eu cette pensée de croire que cette mission n'était pas pour nous ? Si nous n'avons pas de proches non-croyants, si le contexte de notre entreprise n'est pas favorable pour parler de spiritualité, si nous n'avons pas le temps, ne pouvons-nous pas être dédouanés de témoigner ? D'autres n'ont pas les mêmes contraintes, assurément. Ils font bien. La parole de Dieu n'apporte pas de crédit à cette justification. La mission est donnée à tous les disciples et non à ceux qui le peuvent. L'attitude de Paul est un encouragement pour Paul avait des besoins normaux. Il avait besoin d'argent pour vivre. Il ne pouvait pas passer son temps complet à témoigner. Il a choisi de faire ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait pour réaliser la mission. Ainsi, le jour du sabbat, un jour où il ne pouvait pas travailler, il allait à la synagogue pour témoigner. Au-delà des contraintes qui jonchent quotidien. Comment est-ce que je peux arriver à annoncer Christ malgré tout ? La question n'est pas est-ce que la mission est pour moi ? Mais comment est-ce que je peux être en mission au quotidien ? Nous sommes appelés à être des témoins normaux dans une vie normale. Et pour une mission extraordinaire. Nous attendons d'avoir une vie extraordinaire pour être en mesure de la mener à la grandeur de cette mission. Nous sommes appelés à être en mission là où nous sommes, avec tout ce qui fait notre quotidien. Je nous encourage à faire cet exercice. Prenons peut-être le temps de mettre par écrit toutes les fois où nous avons témoigné. Voilà la liste faite, si nous jugeons cela insuffisant, réfléchissons à une situation où nous aurions pu faire le service minimum du témoignage. Il sera plus simple, je pense, de trouver dans notre quotidien, dans notre vie actuelle, une situation où nous pourrions témoigner, plutôt que de vouloir changer notre quotidien, créer des situations favorables. Témoigner là où nous sommes, témoigner là où nous vivons, témoigner là où nous passons le plus clair de notre temps. Même plus loin dans la recommandation, témoignons comme nous sommes. Soyons des témoins normaux. Alors, maintenant que je vous ai convaincu que nous sommes en marche pour témoigner, vers qui pouvons-nous aller pour annoncer ? Vers qui ? Et la question que je veux aborder dans une seconde partie, témoigner à tous. Quand nous réfléchissons au moment, lieu, personne vers qui témoigner, consciemment ou inconsciemment, nous calculons la probabilité d'être écouté afin de savoir si ça vaut le coup. Paul avait choisi une date, un lieu et un groupe de personnes qui semblaient être tout indiqués pour entendre parler de Dieu. Il allait donc à la synagogue locale pour parler aux Juifs. La réponse des Juifs a été cinglante. Il s'est fait insulter et il est parti plutôt fâché. Le texte mentionne qu'il est parti en secouant la poussière de ses vêtements. On n'allait pas croire que la synagogue était particulièrement sale. Il s'agit d'un geste hérité de l'histoire juive. À l'époque, quand un juif était une cité païenne, il secouait la poussière de ses vêtements à la sortie de la ville pour dire « Moi, juif, je ne veux pas être associé aux pratiques de cette ville à l'encontre de l'Éternel. » Paul reprend cette image en précisant « Si vous êtes perdu, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. » Ça y est. Ont réussi à énerver Paul. L'auteur de Corinthiens 13, chapitre élevant l'amour du prochain en objectif ultime de la vie chrétienne, abandonnerait-il son propre enseignement ? Non, je ne crois pas. Paul, en allant vers les Juifs, leur témoigne de l'amour qu'il a pour eux. Dans tout son périple missionnaire, Paul s'est fait chasser par les Juifs pour le message qu'il annonçait. Corinthe, il persiste à aller vers eux par amour pour le peuple juif, par souhait de leur faire connaître la bonne nouvelle de Christ. Paul a dit ce qu'il avait à dire. Les Juifs l'ont mal reçu. C'est de leur responsabilité. Ces mots lancés sur le perron de la synagogue nous apprennent que le témoin n'est pas responsable de la conversion de ses auditeurs. On a tous autour de nous des proches, des amis, des parents, voire même des fils, des filles qui ne croient pas. Vis-à-vis d'eux, nous ne sommes responsables que d'une chose, leur annoncer l'évangile de manière claire et intelligible. C'est ce qu'a fait Paul en allant vers les Juifs. Ils ont refusé et ils se sont pris au messager. Bien que ce soit les Juifs, en tant que groupe, qui injuriaient Paul, ce dernier parle à des individus. Le message qu'il annonce est personnel. J'espère qu'à l'instar des Juifs, vous ne me haïrez pas de vous l'annoncer. L'Éternel nous propose un deal personnel. Il nous a reconnus coupables de ne pas être aussi droit et juste qu'il aurait espéré. Plutôt que de nous condamner pour ça, ici et maintenant, il a fait tuer son fils, Jésus-Christ, comme prix payé pour nos fautes. Le deal. Croire que je viens de dire est vrai. Reconnaître notre culpabilité vis-à-vis de Dieu, nous serons pardonnés. Cette offre est à accepter personnellement. La suite de notre récit à Corinthe va exactement dans ce sens. Alors que Paul a quitté la synagogue pour apporter l'évangile aux non-juifs, le texte nous apprend que Crispus ainsi que toute sa famille s'est converti. Et cet homme n'est autre que le chef de la synagogue. Mes amis, nous avons là un exemple parfait. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Paul s'est fait injurier pour son message. Mais le message a été entendu et accepter. De même, le texte nous dit que beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi. Les Corinthiens ici mentionnés sont des auditeurs non-juifs, vers lesquels Paul va désormais. Alors, pour trouver une analogie moderne, offrir aux non-juifs le pardon de Dieu, à l'époque de Paul, ça revient à offrir le pardon de Dieu aux islamistes responsables des récents attentats au Sri Lanka. Selon une justice humaine, ils ne le méritent pas. Pourtant, le pardon de Dieu est offert à tous. L'offre est la même. Les plus mauvais d'entre nous ne paieront pas plus cher. pour accéder au pardon de Dieu. Alors pourquoi réfléchir à qui ? Le message est pour tous et tous ont le droit de l'entendre. Disqualifier par notre raisonnement une personne de l'Évangile est contraire à l'amour de Dieu. C'est même un contre-témoignage de l'amour universel de Dieu. C'est vrai. Nous pouvons commencer par annoncer l'Évangile à nos proches, à ceux qui nous ressemblent, à ceux qui ne vont pas nous juger trop vite pour parler de Jésus-Christ. Quoi quand l'opportunité de témoignage se font rares, quand le message annoncé n'aura pas de suite, nous pourrons nous rappeler que l'acceptation du message pour nos proches n'est pas notre responsabilité. Alors nous nous souviendrons que Paul, en fermant une porte, celle de la synagogue, en a ouvert une autre, celle des non-juifs, et était vers ceux qui partaient de bien plus loin. Je vous le concède, témoigner, c'est difficile. Et même pour citer Chevalier Las Palès, témoigner, là qu'on essaye. Avançons sur ce qui sera le troisième point de ce message, témoigner sans crainte. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Paul est régulièrement chassé par ses opposants du lieu où il annonce Christ. Ainsi, de ville en ville, c'est ce que nous appelons désormais voyage missionnaire de Paul. Corinthe, c'est un peu le terminus de son voyage. Il y est resté un an et demi. C'est la moitié de la durée totale de son voyage missionnaire à travers l'Asie mineure. À l'époque, Corinthe, c'est l'une des plus grandes villes de Grèce. L'Éternel juge bon d'encourager Paul, dans une vision nocturne, à rester à Corinthe. Et que lui dit-il pour le convaincre de rester ? Dieu dit à Paul qu'ici à Corinthe, un peuple nombreux lui appartient. Dans les villes précédentes de son voyage, Paul part quand on veut lui faire du mal pour le message qu'il apporte. Corinthe ne fait pas exception à la violence contre Paul. L'Éternel ne veut pas que Paul parte de nous. La vision de Paul reçoit les « c'est vous êtes arrivés ». Si on compare Dieu et un GPS, le seul point commun, c'est que les deux nous amènent là où c'était prévu. Pour les délais, GPS ou Saint-Esprit, cela dépend de nous et d'un tas d'autres paramètres. La comparaison s'arrête là, car seul le GPS nous précisera par quel chemin il veut nous emmener. Le Seigneur ouvre et ferme des portes devant nous. Parfois même derrière nous. C'est ce qui se passe quand Paul quitte la synagogue et va vers les non-juifs. La porte des juifs s'est fermée, la porte des non-juifs s'est ouverte, et Dieu l'a bloquée pour qu'elle reste ouverte. Témoigner sans crainte, c'est témoigner en sachant que l'Éternel est à la manœuvre. Il y a des oppositions à notre je dirais même plus, si nous témoignons vraiment Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons faire des oppositions. Ça ne va pas plaire à tous. Le message de l'Évangile n'est pas un simple argumentaire pour convaincre. C'est un changement de référentiel. Ce n'est plus l'homme qui est au centre de sa vie, c'est Dieu. L'Éternel ouvre et ferme des portes dans nos vies. Comme quand nous vivons le témoignage, comme la mission que Dieu nous donne, va peut-être aussi fermer des portes dans nos relations. Peut-être que notre témoignage va changer quelque chose dans notre relation avec notre famille, avec nos amis, avec nos collègues. Je crois qu'avant de témoigner clairement à nos proches, il faut être clair avec cette question. Que je suis prêt accepter ce que je vais dire change ma relation. Paul l'a vécu à la synagogue où ses pères sur la question du témoignage auprès de nos parents, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle le fossé culturel. Ma famille est non chrétienne. Rapidement, après ma conversion, j'ai ressenti que plus j'en apprenais sur Dieu, et moins je me sentais en phase avec mes proches. Pour le dire autrement, plus le fossé entre mes convictions et les leurs m'apparaissait grand et insupportable. Pour traiter ça, je vois trois solutions. Jouer double jeu, avoir deux personnalités et esquiver tout ce qui a trait de près ou de loin à la fois. Ou alors, couper les ponts. Et finalement, je peux aussi témoigner et expliquer clairement ce que je crois. Répondre à la mission de Dieu, c'est choisir la troisième option. De plus, il faut garder en tête que l'Éternel sait tout autant ouvrir des portes qu'il sait en fermer. Tout comme Cyprus, le chef de la synagogue, qui sait. Peut-être avons-nous des proches qui seraient ouverts à recevoir et accepter l'Évangile. Pour faire la synthèse de l'ensemble, nous sommes encouragés à témoigner à tous, sans crainte, là où nous sommes. Avoir une vie normale est tout à fait compatible avec le témoignage. Cet effort de notre part portera peut-être pas des fruits à chaque fois. La conversion de nos proches n'est pas de notre responsabilité. Mais donner à tous de quoi comprendre le message de l'Évangile est de notre responsabilité. Répondrons-nous à l'appel de l'Éternel?